d'État-providence suivant le principe fondamental qui organise la solidarité entre des générations. Alors ces générations sont des générations immédiates. Donc on verra tout à l'heure que le problème se complique lorsqu'on dépasse la génération précédente ou la génération immédiate suit. Alors vous avez les systèmes d'État-providence qui reposent sur les mécanismes de l'assurance. Donc ça c'est la grande invention que retrace François Ewald dans la loi qui est centrale en France, c'est la loi sur les accidents du travail. Donc ça c'est en place en fait par Bismarck, c'est-à-dire c'est le système d'équivalence entre des cotisations et des prestations, donc via un système d'assurance. Alors après, on peut opposer, mais à cette époque-là, c'est équivalent, le système par répartition, le système par capitalisation, parce qu'il y avait un système d'assurance dans lequel les assurés sont des individus. Et bien, en régime démographique stationnaire, les deux techniques sont équivalentes, donc après, c'est juste une affaire d'actuariat, mais pas fondamentalement de principe. Alors, la deuxième philosophie de l'État-providence, c'est la solidarité. Donc là, ce n'est pas un système d'équivalence entre des cotisations d'assurance et des prestations. C'est un système de solidarité nationale, c'est-à-dire que, donc, si on veut de justice corrective et non pas de justice distributive. Et donc, le système est alimenté en ressources par l'impôt, et assez rapidement, l'impôt va être proportionné à la capacité distributive des individus, alors que les prestations, elles, vont être pour obéir à une logique de besoin. Donc, théoriquement, dans le système de la solidarité, il va y avoir une redistribution des revenus, puisqu'il n'y a pas équivalence entre les cotisations et les prestations. Enfin, ce que je dis est évidemment extrêmement approximatif dans le détail, parce que, comme vous le savez, les cotisations, enfin pendant en tout cas des décennies, ont été plafonnées, les prestations ont été modulées en fonction des revenus, donc dans le détail, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a un troisième principe, qui est celui de l'assistance, et non pas de la solidarité. Alors, l'assistance, la solidarité et l'assurance, ce sont des principes d'équivalence. C'est-à-dire que, normalement, même s'il y a des modulations, donc, il y a normalement un pied d'égalité entre le cotisant et le bénéficiaire, même lorsque les deux sont différents. Tandis que dans l'assistance, vous avez un système dissymétrique, c'est-à-dire que c'est une assistance qui est discrétionnaire, unilatérale et sans éventuellement contrepartie. Donc, toutes ces techniques d'assurance, faisait que s'est mis en place un système qui permettait de distribuer des revenus en fonction des cotisations, etc. Alors, néanmoins, même à cette époque-là, il y avait le problème de savoir qu'est-ce qui était assurable ou pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui était calculable ou pas. Donc, vous aviez des systèmes, d'une part, les risques non assurables, donc ça c'est du coup c'est l'État qui devient assureur en dernier recours, c'est-à-dire que quand l'État décrète qu'il y a une catastrophe naturelle, les décrets de CatNat, à ce moment-là, c'est l'État qui indemnise et non pas les sociétés d'assurance. Et puis d'autre part, vous avez les risques que les sociétés d'assurance n'assurent pas, risques de guerre, de guerre civile, etc. Alors, les conséquences que j'en tire à la fois du point de vue de la topologie et de la chronologie du commun dans la multitude, d'une part, on voit qu'avec ces techniques qui se mettent en place à la fin du XIXe siècle, du point de vue de la topologie, on voit qu'on passe d'un revenu indexé sur une base terrible, on passe au fond du lopin de terre, si j'ose dire, à l'assurance hors sol. C'est-à-dire que au moment de 89, quand on avait des discussions sur les secours à donner aux pauvres, ou dans la discussion dans la Constitution américaine, comment on envisageait de faire en sorte qu'il y ait une égalité de solidarité vis-à-vis des gens, ou dans les textes de Burke ou des choses comme ça, à ce moment-là, on envisageait de rendre les gens propriétaires d'un lopin de terre. C'était une espèce d'assurance contre les aléas de l'existence, et donc, moyennant Il y avait une espèce de minimum, et au lieu que ce soit un minimum en revenu monétaire, un minimum de superficie qui permettait d'assurer la subsistance. On voit très bien que cette idéologie est en train de ressurgir aux États-Unis avec les néoconservateurs, puisque l'idéal de Bush est de rendre tout le monde propriétaire, y compris dans le système d'assurance maladie. Alors, au cours du XIXe siècle, doctrine du solidarisme et puis surtout les institutions de la protection sociale, on voit qu'on s'extrait d'une espèce de garantie dans la propriété, dans la petite propriété foncière, pour avoir au contraire des revenus qui sont déconnectés de l'appartenance territoriale. Mais implicitement, cette libération individuelle de l'appartenance, de l'enracinement dans un sol, est contrebalancée par le fait que la solidarité nationale est au contraire définie sur la base de l'État-nation territoriale qui se consolide à ce moment-là. Donc, on voit très bien. Alors, la discussion va être reprise ultérieurement. Par exemple, dans le livre de Rosan Vallon sur les corps intermédiaires, lorsqu'il va montrer que dans la lutte pluriséculaire entre l'État et l'Église sur justement la maîtrise de la propriété foncière, puisque l'Église assurait justement les fonctions de l'État-providence dans l'Ancien Régime, on va passer de ce que d'un viager en quelque sorte foncier, hein. Et donc Rosan Vallon, enfin, ce sont des discussions qui correspondent à des discussions au milieu des années 30, à un moment donné, les libéraux vont redouter qu'on substitue à une main morte religieuse une main morte syndicale, au moment où les syndicats, dans les années 30, vont avoir le droit de posséder, à la différence des associations, de posséder des biens, de distribuer des revenus, et donc de gérer des fonds. Et donc les idéologues ont dit, mais on passe d'une main morte religieuse, puisqu'on n'était pas très loin de la séparation de l'Église et de l'État de 1905, à une main morte. Donc les républicains jacobins redoutaient qu'on tombe de Caridensilla, et qu'après avoir eu à se méfier du goupillon, on est à se méfier de la faucille et du marteau. Alors, les présupposés topologiques de cette conception, évidemment, maintenant, on le voit rétrograde, ça nous paraît extrêmement naïf, parce que on voit très bien qu'on a un calcul qui des actuariats qui utilise des mathématiques continues qui ont été mises au point au XVIIIe siècle, puisque Leibniz était un des premiers théoriciens de l'assurance. Et donc, ça nous paraît relativement naïf, et pas en tout cas avec ce que nous savons des limites des calculs, de ce qui est probabilisable, de ce qui n'est pas probabilisable dans les événements, que ces événements soient naturels ou sociaux. Donc, le fait que cette solidarité nationale ait été fondée sur l'État-nation territoriale renvoie à, au fond, une organisation politique dont il me semble nous sommes en train de vivre la fin, et que, à mon avis, j'appellerai l'ère westphalienne en 1648, pour mettre fin aux guerres de religion. On a considéré que l'appartenance religieuse était double, c'est-à-dire qu'il y avait d'une part le fort privé, donc ça on n'en avait pas à en savoir, et puis ce qui apparaissait publiquement, eh bien, c'était tout simplement l'appartenance territoriale, hein, on disait en latin que jus regio et jus religio, et donc à ce moment-là, il y avait en quelque sorte séparation déjà entre, si on veut, l'Église et les pouvoirs. Alors évidemment, ce processus de séparation en France va mettre de décennies, sinon de siècles, à se parachever. Mais on voit très bien que l'État-nation étant née, à mon avis, à Westphalie, avec le traité de Westphalie, alors nous sommes en train d'en sortir Alors, est-ce que la sortie date de 1989 ou de 2001? Ça peut se discuter, mais j'ai l'impression quand même que, comme diraient les mathématiciens, l'erreur de mesure est relativement faible par rapport à 3 siècles et demi. Alors, du point de vue de la chronologie de la multitude, il me semble que le concept fondamental qui se met en place pendant ce 19e siècle, c'est le formalisme de l'actualisation mathématique. C'est-à-dire que, avec un taux d'intérêt, on peut passer formellement d'un revenu monétaire réel à une évaluation du capital équivalent permettant ce revenu. Alors, ce mécanisme fort est très très important du point de vue économique, parce que ça renvoie à ce que Marx appelle, à juste titre, le capital fictif, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'un décalage entre la valeur formelle calculée par cette méthode, ce calcul d'actualisation, et puis la valeur réelle qui serait constatée moyennant une transaction contre argent sonnant et trébuchant. Alors, ce décollement entre la valeur fictive du capital et un capital réel va être très très importante pour la Terre, parce que justement c'est ce qui va permettre de donner une soi-disant valeur à la Terre, et donc c'est ce qui va consolider ce qu'on appelle la rente foncière chez les classiques de Ricardo à Marx. Alors, quelle est la fonction de la rente foncière? Bon, là j'enfonce peut-être des portes ouvertes. On voit très bien que, du point de vue historique dans la diachronie, cette rente foncière, c'est ce qu'on a appelé historiquement les enclosures, l'accumulation primitive, etc. C'est-à-dire que l'appropriation privée des communs, pour employer le terme fétiche de notre séminaire, permettait les prolétaires de leurs conditions naturelles, entre guillemets, d'existence, et donc de avec tous les guillemets triples, si vous voulez, que vous voulez, de libérer la force de travail, donc de la créer en tant que force de travail libre. Donc ce rapport social de la rente foncière est un rapport fondamental, qui est une condition sine qua non d'existence d'une force de travail libre. Bon, tout ça, c'est un peu le béaba élémentaire, excusez-moi. Mais alors, ça c'est dans la diachronie. Et dans la synchronie, on voit très bien, alors ça c'est dans le livre 3 de Marx, que cette rente, ça parachève en quelque sorte les rapports de... Donc dans la synchronie, ça permet justement la reproduction en régime de croisière, puisque c'est l'hypothèse de départ de Marx du mode de production capitaliste. Et donc ça s'oppose à l'intérêt, etc. Et donc, la métamorphose, quand même, ce qui est très très important, c'est que, évidemment, on a une conception, entre guillemets, fétichisée de la rente foncière, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la rente est liée à un morceau de terre, de sol. Alors, ce qui se passe avec la naissance de l'État-providence, et ce que j'ai dit avec cette formule un peu provocatrice, on est passé, si j'ose dire, d'une reproduction de l'être humain en élevage, sur des terrains, en hors-sol. Et donc, c'est pour ça que dans les discussions entre économistes sur ce que c'est que le salaire indirect, moi je suis de ceux qui disent que ce que certains appellent le salaire indirect n'est qu'en fait une métamorphose de la rente, non, une rente foncière, mais qui devient la condition même, puisque ce n'est pas lié au travail productif, condition même de reproduction de la force de travail. Alors, et on voit très bien que cette transformation, ça a des effets en retour, justement, sur la conception du travail. Alors, on voit très bien que le fait d'avoir une grandeur avec des calculs, un temps continu, etc., ça présuppose... C'est là où il faut inverser les choses par rapport à une conception que j'appellerais substantialiste de la valeur. C'est que, au lieu que la valeur, que le travail, ce qui nous paraît un peu surréaliste à notre époque, soit une grandeur en soi homogène, ça a pu l'être, mettons, et encore, au temps du Fordisme, ce n'est que parce qu'il y a des calculs qui permettent de l'homogénéiser qu'on peut faire abstraction des différences d'intensité, des interruptions, etc., et donc on peut homogénéiser. Mais cette homogénéisation n'existe pas avant